cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, et avec à la technique, bien sûr, Flo Descailloux, qui vous réserve quelques surprises de sa création personnelle et de son interprétation de l'émission. Aujourd'hui, nous recevons Géraldine Doutrio pour Le cas Marguerite Audoux. C'est un livre très précieux sur l'itinéraire, le parcours d'écriture de Marguerite Audoux. Ça vient de paraître aux éditions Des Femmes, Antoinette Fouque. Géraldine de Doutrio, bonjour.
Bonjour.
Alors, moi, je trouve que c'est un livre très salutaire pour cette femme qui est un peu oubliée, femme écrivain.
Merci.
C'est très émouvant aussi. C'est très émouvant parce que c'est quelqu'un, c'est l'art du peu, c'est Marguerite Audoux pour moi, d'ailleurs qui a obtenu, je crois, le prix Femina en 1910.
Tout à fait.
Pour Marie-Claire. Mm-hmm. Ah, ça vous rappelle un célèbre magazine qui tient son nom de ce fameux roman Marie-Claire de j'allais dire Géraldine Doutrio, vous voyez, je vous
j'aimerais
confonds.
J'aimerais bien, mais non.
Je vous confonds. Donc de Marguerite Audoux. Et il y a quelque chose de très émouvant dans votre livre, dans cet accompagnement, j'allais dire, de cette vie, Géraldine Doutrio. Alors, avec un style, c'est pas vraiment une biographie, c'est un récit. Comment vous définisseriez-vous votre ouvrage, puisque...
C'est une biographie, c'est un récit biographique. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments un peu romancés, un peu imaginés. La vie de Marguerite Audoux, il y a quand même pas mal d'éléments sur sa vie, mais pas tant que ça non plus. Je pense notamment à sa correspondance, qui normalement est une mine d'informations. Or, la correspondance privée de Marguerite Audoux, elle existe. D'ailleurs, on peut la trouver sur Internet. Mais elle n'est pas riche en informations sur son art littéraire, sur comment elle écrivait. C'était une femme assez discrète. Aussi discrète que son style, finalement, que vous qualifiez tout à l'heure de l'art du peu. Oui, elle avait un style assez minimaliste et ça se retrouve aussi dans sa manière de médiatiser sa vie. C'était une femme discrète.
Ouais, l'arte povera. Vous dites, cette biographie comporte des éléments de fiction pour combler certaines zones d'ombre que contient encore la vie de Marguerite Audoux. Alors, comment vous avez... je pense que c'est en allant en bibliothèque, moi, je suppose. Quel a été le déclic de ce livre, de cette aventure? Parce qu'il fallait le faire, quand même. Aller ressusciter, comment dire, Marguerite Audoux, donc qui est née, pour nos auditeurs, le 7 juillet 1860. Et qui est décédée le 31 janvier 1937. Donc, elle est née dans le Cher, je crois, à Sancoin.
Tout à fait.
Et elle est décédée à Saint-Raphaël.
Dans le sud.
Dans le sud.
Au bord de la mer.
Au bord de la mer. Mais quel a été un peu la lecture de Marie-Claire?
Alors, le déclic, clairement, ça a été la rencontre avec une prose qui est celle de Marie-Claire. Hein, ce récit autobiographique de Marguerite Audoux, un récit d'enfance qu'elle a écrit. C'est son premier, vous l'avez dit, il a été publié en 1910. Il a tout de suite fait un tabac. Et moi, je ne connaissais pas Marguerite Audoux. Pourtant, j'ai fait des études de lettres. Je suis prof de français. J'aime les pépites. Et ben, je ne connaissais pas Marguerite Audoux. Et pourtant, je suis une grande amatrice des anthologies.
Oui.
La guerre des Michards, Henri Mitterrand, pour ceux de ma génération. Et jamais, dans ces, pourtant, ces anthologies que j'aime, hein, il n'y avait d'extrait de Marie-Claire, de Marguerite Audoux. Et moi, je l'ai rencontrée donc dans une librairie. Je cherchais un livre pour un ami, pour son anniversaire. Je sais qu'il était justement amateur de pépites. Je vois donc c'était publié, c'est publié chez, dans la collection Les Cahiers Rouges de Grasset.
Oui, je très prends... bonne collection.
Ouais, mais vraiment. Et donc je lis, je regarde ce livre sur la couverture. Vous pouvez pas le voir, mais on voit les yeux, ces très beaux yeux qui pendent un peu, hein, de Marguerite Audoux, des yeux un peu tristes, un peu mélancoliques, hein, des yeux
un
clairs,
un peu fataliste aussi.
Un peu fataliste, c'est vrai, un peu résigné. Et j'ouvre le livre et je tombe dedans, comme Octave Mirbeau. enfin, je suis pas Octave Mirbeau, hein, je n'oserais pas me comparer à lui, mais Octave Mirbeau, hein, donc grand journaliste, critique et écrivain, c'est lui aussi qui a découvert la prose de Marie-Claire, qui l'a adorée et qui a tout fait pour la publier. Ben moi, quand j'ai lu Marie-Claire, j'ai trouvé ça génial. Et surtout, après, j'ai été frappée par le hiatus entre la beauté de cette œuvre, sa simplicité, sa clarté, sa limpidité, et aussi sa modernité. On est quand même en 1910, et elle écrit avec une simplicité qu'on ne peut pas imaginer. C'est quand même l'époque on n'est pas loin des Parnassiens, du symbolisme, donc une écriture plutôt artiste, esthétisante. Et elle écrit très simplement. Et j'ai vu ça, et donc j'étais frappée entre le hiatus, hein, entre cette beauté et le fait qu'on en parle si peu. Et c'est ce qui m'a donné envie de me pencher sur sa vie. Et alors évidemment, après, il y a eu une autre histoire qui est l'histoire de la vie de Marguerite Audoux,
oui,
qui
voilà.
est une histoire passionnante.
Alors déjà, son patronyme est incroyable. Elle s'appelle Marguerite Marie Don Quichotte.
Exact.
Mais il faut le faire, s'appeler ouais. Don Quichotte quand même. Alors je ne sais pas si elle cherche... Elle va prendre le nom de sa mère. Audoux, c'est le nom de sa mère.
Ouais.
Il faut dire, alors, son père, le père de Marguerite Audoux, était charpentier.
Mm-hmm.
Sa mère était journalière. Alors, journalière, c'est les gens, à l'époque, qui louaient leurs bras, qui louaient leur force de travail, qui allaient
Exactement.
D'une ferme à l'autre.
Mm-hmm.
Et ça, c'est dans le Cher. Hein, on est du côté de Sancoin, la
Exactement.
Foire de Sancoin.
Hein. Près du canal de Bourgogne. Mm. D'ailleurs, son père a sans doute... travailler. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur je sais plus ce métier propre au canal de Bourgogne. Bon, bref, en tout cas,
les éclusiers.
Et voilà, exactement, ouais, les éclusiers. Et oui, en effet, elle vient de cette famille. Son père s'appelait Don Quichotte, vous l'avez dit, parce que tout simplement, son père était lui-même un enfant trouvé. Un enfant qui a sans doute été abandonné par ses propres parents et à qui un fonctionnaire de l'état civil mal luné ce jour-là a donné à ce bébé trouvé, orphelin, enfin abandonné, le nom de Don Quichotte. Mais attention, Don Quichotte, tout attaché et avec un T au lieu de deux T. Donc il y a déjà une erreur d'orthographe dans le. Donc ce qui pourrait renvoyer finalement à un héritage un peu prestigieux. Hein. Don Quichotte, c'est pas n'importe qui, c'est un grand héros de la littérature romanesque. Eh bien, c'est aussi un nom qui est handicapé, si je puis dire, en plus par cette faute d'orthographe au cœur de son nom de famille. Marguerite Audoux détestera ce patronyme. Elle, dès qu'elle le pourra, dès qu'elle va se faire imprimer des cartes de visite parce qu'elle deviendra couturière et qu'elle aura son propre atelier, la première chose qu'elle fait, elle prend le nom de sa mère, qui est Audoux. Alors c'est rigolo.
Ah bah il y a la douceur.
Ah il y a la douceur, exactement.
Voilà, douceur.
Et elle déteste ce nom parce que elle dit que ça lui a tiré des colibés, on se moquait d'elle. Et puis évidemment, ce nom tout de suite, ça dit fille d'enfant trouvée.
Alors elle est placée, donc elle est orpheline après assez tôt. Hein.
Orpheline de mère et le père. Va les abandonner. Il va abandonner Marguerite et sa sœur, sa grande sœur.
Oui.
Donc, à son tour, il va reproduire le schéma dont il a lui-même souffert, hein, puisqu'il abandonnera à son tour ses deux petites filles.
Voilà. Donc, elle est en 1877, à l'âge de 14 ans, Marguerite Audoux est placée comme bergère, servante de ferme en Sologne, auprès de la famille de Jouy. Voilà, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et alors. C'est vrai que c'est... Elle monte quand à Paris, en fait ? Comme on disait, monter à Paris.
Oui, tout à fait. Elle monte à Paris à l'âge de 18 ans. Est-ce que je peux rentrer un peu plus dans la biographie de Marguerite Audoux ? Non, en fait, ce qui lui est arrivé, donc vous l'avez dit, elle a été abandonnée. Donc, elle se retrouve dans un orphelinat tenu par des religieuses à Bourges. Et là, elle va vivre jusqu'à l'âge de 13 ans à peu près. Alors, c'est une chance pour elle, cette orphelinat, parce qu'elle va y apprendre à lire et à écrire. Il faut savoir qu'à l'époque, les enfants abandonnés, souvent, dès qu'on pouvait, on les plaçait dans des familles, notamment dans la paysannerie, pour qu'elles servent de main-d'œuvre agricole. Or, et là, évidemment, on ne se soucie absolument pas de leur éducation. Marguerite Audoux, finalement, a eu de la chance dans son malheur, parce qu'on a tenu à la garder dans l'orphelinat. Les religieuses l'ont gardée avec elle, ce qui lui a permis de faire l'école. Et alors, pourquoi on l'a gardée avec elle? Sans doute parce qu'elle était... Marguerite Audoux, elle est connue pour... Elle est de toute petite taille, elle est un peu chétive, elle a des problèmes aux yeux, elle a des points de côté. Et puis, sa mère était morte de tuberculose. Donc, on soupçonnait cette enfant d'être en très mauvaise santé et qu'elle n'aurait pas supporté un placement dans une famille d'accueil. C'est pour ça qu'elle est gardée à l'orphelinat. Et ça va être sa chance, parce qu'elle apprend à lire et écrire. C'est marqué sur les registres de l'orphelinat. Il y a marqué, à côté du nom de Marguerite Don Quichotte, il y a marqué « C'est lire et écrire ». C'est fondamental.
C'est fondamental.
Elle a échappé à un destin d'illettrés,
voilà.
Qui était celui de ses parents. Ses parents étaient illettrés.
Alors, à chaque fois que vous écrivez Géraldine Doutriot, c'est-à-dire vous situez aussi le panorama de l'époque. Il y a soit votre parcours vis-à-vis de cet écrivain, et puis vous situez le panorama de l'époque. Vous dites, il y a les enfants trouvés, ceux qui nés de père et de mère inconnus ont été trouvés dans un lieu quelconque, des enfants abandonnés, ceux qui nés de père et de mère connus et d'abord élevés par eux en sont délaissés, puis les orphelins pauvres, ceux qui n'ayant ni père ni mère n'ont aucun moyen d'existence. Il y a aussi les enfants en dépôt, envoyés par les hôpitaux parce que leurs parents sont très malades. C'est une époque où il y a beaucoup, beaucoup d'enfants abandonnés.
Exactement.
Beaucoup, beaucoup, avec des transferts, c'est-à-dire de la campagne à Paris et j'allais dire réciproquement. Donc c'est une époque vraiment où il y a de la grande misère, où finalement, oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont dits pupilles de la nation. Enfin, ils sont plus ou moins...
Alors, le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit. L'État ne prenait pas trop en charge.
Il les envoyait dans des fermes.
Donc, finalement, où c'était les religieux. Mais vous avez raison, Marguerite Audoux n'était nullement une exception. Et c'est pour ça que Marie-Claire est un texte très intéressant, d'abord par sa beauté littéraire, mais aussi parce que c'est un témoignage. C'est un témoignage, c'est le parcours d'une petite fille abandonnée, comme c'était le cas de beaucoup de petites filles à cette époque. Or, finalement, qu'est-ce qu'on a comme témoignage d'enfants abandonnés de cette époque? Pas grand-chose.
Du côté d'autrement, je pense à Dickens, par exemple.
Alors oui, voilà, il y a Charles Dickens, tout
David
à fait.
Copper... Enfin, on pense plutôt
tout
à cette tradition-là.
Tout à fait.
En France, c'est vrai.
Il y a Cosette, qui est un personnage de fiction inventé par Victor Hugo. Il y a la petite Fadette chez Georges Sand, ça. Mais finalement, ce qui est génial dans Marie-Claire, c'est que c'est sa vraie. C'est un témoignage authentique. Elle raconte. Marie-Claire, c'est Marguerite Audoux. Et donc, finalement, ce genre de récit assez réaliste, de témoignage, c'est rarissime. C'est assez inédit, finalement, Marie-Claire.
Alors, bon, elle est couturière, je dirais qu'elle rafistole des bouts de son existence. Vous dites, elle prend, ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, elle prend le nom de sa mère inscrit sur sa carte de visite, Madame Audoux, couturière à façon. C'est sous ce nom qu'elle signera ses livres. Excite Don Quichotte, maintenant ce sera Audoux. Ce nom aussi simple et discret que celui du père, et que celui du père était tapageur et burlesque. Premier rafistolage identitaire, un père en moins dans cette généalogie qu'elle considère comme ratée. Alors elle finaude finalement, elle fait avec, Marguerite Audoux.
Oui, mais c'est vrai qu'elle a un rapport à la famille et aux liens biologiques compliqués. Son père l'a abandonnée, sa mère elle l'a à peine connue, elle est morte alors qu'elle était très jeune. Sa grande sœur ne sera jamais une alliée dans sa vie. Marguerite Audoux aurait voulu avoir des enfants, elle n'a pas réussi à en avoir. Mais pourtant, malgré tout ça, elle va se reconstituer une famille, mais en dehors des liens biologiques. Enfin, des liens biologiques directs. Et ça aussi, c'est un paramètre très intéressant dans le parcours de Marguerite Audoux.
Ben, c'est-à-dire qu'elle elle se constitue une famille d'élection, on peut dire. Elle choisit ses... Mais à Paris, finalement. C'est à Paris qu'il a... C'est le fait de vivre... Elle vit dans quel quartier, je crois?
Dans le 14e arrondissement.
Donc, elle est couturière, elle est ce qu'on appelle une petite main. Et puis, ce qui est aussi émouvant dans son parcours, Vous dites, alors, il y a un côté, voilà, vous dites, Marguerite reprend son apprentissage dans une maison de couture, elle en sort maîtresse ouvrière à 30 ans, c'est déjà vieux pour l'époque, mais Marguerite a toujours fait les choses lentement, comme la tortue de la fable, à force d'entêtement. Elle trouve une place stable dans un atelier rue Vavin. Des années plus tard, elle décide d'ouvrir son propre atelier, elle embauche 12 ouvrières, elle change de nom, la vie de Marguerite Audoux peut commencer. Ce qui est aussi... Cette femme, dont on voit le regard en couverture, elle a eu d'énormes problèmes de vue. Mmh. Elle était quasiment... Enfin,
à la fin de sa vie, quasi aveugle.
Quasi ouais. aveugle. À une époque, on ne soignait pas. Il n'y avait pas de mmh. Et on lui interdit, d'ailleurs, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on lui, le médecin lui interdit de coudre, de faire son métier.
Oui, alors ça, c'est arrivé vers, en effet, vous avez raison, vers la quarantaine, où à force de se pencher sur son ouvrage de couture, de devoir serrer les yeux, si je puis dire, peut-être qu'elle écrivait aussi la nuit, il est possible, puisqu'elle elle travaillait le jour. Donc, comme beaucoup d'écrivains qui travaillent à temps plein, on écrit quand ? On écrit la nuit et on lit la nuit aussi. C'est ce qui a peut-être probablement abîmé ses yeux. Donc en effet, elle avait des crises, des sortes d'hémorragies oculaires. Et à la fin de sa vie, elle sera quasiment aveugle.
Et ça, cet handicap, elle le surmonte toute sa vie. Hein, ça, c'est... Mais vous dites, alors, c'est la petite à tout faire. Ça, j'ai bien aimé comme expression, la petite à tout faire. Mm. Vous dites, Marguerite rejoint la centaine de milliers de femmes qui gagnent leur pain dans la capitale en réalisant des travaux d'aiguille. Après, plus loin, vous écrivez, chaque matin avant le jour, elles quittent leur quartier, domicile, Belleville ou Montrouge, pour venir peupler les ateliers de la Chaussée d'Antin, du boulevard Lafayette ou de la rue de la Paix. Là aussi, on voit le panorama de l'époque. Mm. Toutes ces femmes, c'est-à-dire que Marguerite Audoux, c'est là sa grande force, elle est le symbole de toutes ces petites mains.
C'est ce qu'on appelait des midinettes. Aussi.
Oui, aussi. Moi, je me préfère le mot petite main.
Parce et petite que... main, et alors, il y en a plein, il y a passereau, enfin, il y a plein de surnoms pour les couturières. Hein. En effet, pour les jeunes filles comme ça, qui se retrouvaient dans la grande ville parisienne, finalement, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire ? Il n'y avait pas grand-chose à faire, à part couturière. Hein. C'était vraiment le métier, le travail de l'aiguille, hein. Mmh. Les ouvrières de l'aiguille. Alors évidemment, elles n'étaient pas toutes dans des ateliers de mode de chez Poiret oui. ou quoi que ce soit. Hein. On voit souvent les photographies, on voit des magnifiques ateliers de haute couture. Pas du tout. Hein. C'était plein de petits ateliers comme ça, où il y avait deux, trois ouvrières, etc. Et alors ça, c'est toute une période de la vie de Marguerite Audoux. Donc entre 18 ans et 45 ans, on va dire, en effet, elle a été couturière et ça a été très dur. Ça a été très dur parce que le métier de couturière, le problème, c'est qu'il y avait la morte saison. La morte saison, c'était 6 mois dans l'année, en gros, ouais. où on ne trouvait plus de travail. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve plus de travail ? Or, il fallait gagner sa vie. Eh bien, on va à l'usine. C'est ce qu'a fait Marguerite Audoux à plusieurs reprises. On sait qu'elle a travaillé à la cartoucherie de Vincennes. Alors pour une antimilitariste et pacifiste comme elle, ça devait être pas facile, puisqu'elle travaillait aux munitions. On pense qu'elle a travaillé à la buanderie de l'hôpital Lennec à Paris, etc. Mais toujours des expériences malheureuses, difficiles. Ça, c'est l'objet de son deuxième roman, hein, qui s'appelle L'Atelier de Marie-Claire, qu'elle a publié en 1920, où elle raconte toute cette expérience du métier de couturière. Et elle raconte que pendant la morte saison, parfois, on allait se faire embaucher dans un atelier de fourrure, par exemple. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous travaillez dans un atelier de fourrure, eh bien, il y a les longs poils qui vous rentrent dans le nez, ce qui provoque des saignements de nez.
Oh là là.
Elle raconte toutes sortes. C'était toujours assez douloureux. Puis les ateliers, ils étaient souvent étouffants. On y respirait mal.
Mal éclairé.
On l'a vu, exactement. Il y avait beaucoup de
pas chauffé,
pas chauffé, beaucoup de cas de tuberculose. Hein. Il y a un personnage qui meurt de la tuberculose dans l'atelier de Marie-Claire, et c'est clairement dû aux conditions de travail. Il y a les mains baladeuses parfois des patrons. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? On se prostitue. Hein, souvent pour échapper. Oui, souvent, pour échapper à ces conditions difficiles. Et puis, c'était un travail qui était mal payé, qui n'était pas contrôlé par l'inspection. Vous étiez payé à la pièce et pas à l'heure, ce qui est dramatique, parce que bah, du coup, vous pouviez passer parfois des heures sur une robe, et puis en fait, on vous payait à la robe et pas à l'heure. Voilà, donc vous pouvez imaginer les salaires insuffisants. En plus, vous deviez souvent travailler la nuit pour finir une commande. Et comment elles font, les couturières, pour rentrer chez elles? Elles vivaient souvent en banlieue, donc c'était dangereux, il n'y avait pas de lumière, etc. Bon, donc elle raconte très bien tout ça dans l'atelier de Marie-Claire, elle montre bien que c'est un travail difficile et qu'il y a toujours la tentation de la prostitution, à laquelle Marguerite Audoux a priori ne...
Oui, non. Mais sa nièce, oui, ça.
Mais elle a une nièce dont Yvonne. Elle s'est occupée, Yvonne, qui, elle, on sait que, mais comme beaucoup, elle bouclait les fins de mois, si je puis dire, c'est une question de survie par la prostitution.
Oui, ouais, bien sûr. Alors vous écrivez, un écrivain sans bureau, sans chambre à soi, qui écrit entre une tambouille, un raccommodage, une lessive, un cirage de souliers, un balayage, un pelage de carottes, un lavage de vitres, dans une pièce commune, traversée des courants d'air et des allées et venues d'enfants qui sautent à cloche-pied, ou qui se chamaillent, ou qui font leur devoir et demandent une explication, sollicitent une minute d'attention. En fait, le parcours d'écriture de Marguerite Audoux, c'est le parcours d'une femme qui doit faire avec la vie réelle, la vie domestique.
Exactement.
On nous fait un signe en région. Ah. Il doit y avoir une musique qui nous attend.
Mais oui, vous n'arrêtez pas de parler de couture. Eh bien, Jeanne Moreau, oui, ça me démange. Jeanne Moreau a chanté « Juste un fil de soie ».
Ah ben, écoutons ça.
Dans un ravissant équipage, emmitouflé dans mon plumage, je suis prête pour l'esclavage, prête à recevoir vos hommages, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Avec vos airs et vos guitares, vous êtes toujours sur le départ, nous aurons des amours barbare, pleine de fièvre un peu bizarre, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Je me donne à vous en pâture, mais j'ai revêtu mon armure, vous m'infligerez des tortures, tout le reste je le censure, mais votre corps, vos lèvres m'attirent, je vais succomber au plaisir, au charme aigu de vos désirs, avec soupir sans repentir, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Chaque seconde est un baiser, la terre a cessé de tourner, vous avez su m'apprivoiser, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Renversé dans des cachemires, nous pouvons frémir et gémir, vous m'avez fait refleurir, pleurer à en pâlir, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Je leur rends ma foi pour garder la joie, et je vous renvoie pour un autre roi. Papa, 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 papa.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Géraldine Doutrio pour le cas Marguerite Audoux, ça vient de paraître aux éditions des Femmes, Antoinette Fouque. Alors Géraldine Doutrio, c'est vrai que Marguerite Audoux, elle va se constitue, on disait tout à l'heure, une famille d'élection. Donc il y a sa nièce. Sa nièce, c'est la fille de sa sœur Madeleine, c'est ça, hein?
Exactement.
Et donc, elle l'élève, en fait, en quelque sorte, même si cette fille se prostitue dans le quartier des Halles. Enfin, mais par cette fille, cette fille connaît un dénommé Michel Yel.
Tout à fait. Alors, juste un petit retour en arrière. En effet, Marguerite, Don Quichotte encore, hein, arrive donc à 18 ans, on est dans les années 1880, hein, à Paris. Elle devient couturière. Et là, un jour, toque quelqu'un dans sa petite chambre de bonne. Elle ouvre. Et là, c'est sa sœur. Sa sœur aînée, qui est bonne, dans le 6e arrondissement. Et qui lui tend un petit paquet. Et il s'avère que ce petit paquet gigotant, c'est un bébé de 6 mois. Et elle lui dit, écoute, garde-la moi, cet enfant, je ne sais pas qui est le père, je n'ai pas envie de le savoir, et puis je ne peux pas la prendre, moi, mes maîtres, mon maître va me renvoyer. Donc Marguerite, bon, bah, accepte, prend cet enfant, et elle a bien eu raison de le prendre et de le garder, et il s'avère que ça sera elle, sa mère, hein, elle va l'élever jusqu'au bout, puisqu'il s'avère qu'en fait, Marguerite Audoux ne pourra pas avoir d'enfant après un accident qui lui arrivera plus tard. Et donc, elle va se créer une vraie descendance à partir de cette nièce donc, qui s'appelle Yvonne. Et donc, les années passant, Yvonne grandit, etc. Alors, elle n'a pas du tout le même tempérament que Marguerite Audoux. Ce n'est pas du tout une rêveuse, une contemplative. Elle est plutôt dans la vie. La couture, ça ne l'intéresse pas. Elle aime bien batifoler. C'est une jeune fille assez coquette. Et il s'avère qu'elle rencontre un jeune homme, un étudiant en droit, qui s'appelle Michel Yel. En fait, son vrai nom, c'est Jules Yel, mais son pseudonyme littéraire, c'est Michel Yel. Parce que Michel Yel, il est étudiant, mais il écrit.
Oui, voilà.
Il écrit, il est obsédé par l'écriture. Et donc, ce jeune étudiant en droit est très amoureux d'Yvonne, donc la nièce de Marguerite Audoux. Et un jour, ce Michel Yel comprend que Yvonne, en fait, se fiche un peu de lui. Et donc, il la quitte, ou il se fait quitter. Et il tombe amoureux, il va se consoler dans les bras de la tante, à savoir Marguerite Audoux. Et là, va commencer une liaison amoureuse entre ce Michel Yel, qui a la vingtaine, et Marguerite Audoux, bah, qui en a 12 de plus. Et c'est intéressant parce qu'ils ne font pas partie du même milieu. Hein. Lui, c'est quand même un milieu petit bourgeois, provincial. Elle, bah, c'est une ouvrière et elle est plus âgée que lui. Et pourtant, il va y avoir une très belle histoire d'amour qui va durer une dizaine d'années entre les deux. Et c'est ce qui va en effet déclencher la deuxième vie de Marguerite Audoux, ouais. Puisque par Michel Yel, elle va rencontrer toute une bande de copains.
C'est, Michel Yel est ami avec André Gide.
Voilà, André Gide.
Entre autres. Vous dites le hiatus qu'il y a à faire coexister une femme comme elle, ouvrière de 37 ans, et un homme comme lui, fils de la petite bourgeoisie, amateur écrivain de 25 ans, mis à égalité par le désir, les statistiques mises KO par l'étreinte gagnante de leurs deux corps. Et vous montrez, on sait plus qui materne qui, hein, d'ailleurs, parce que... Vous dites, il fait aussi gamin et écureuil que Marguerite fait puissante et terrienne, un fruit mûr et voluptueux. C'est vrai que sur la photo de couverture, on la voit, c'est une femme imposante quand même. Hein.
Ouais,
elle est ronde.
Sur la photo, elle a déjà...
elle a 60 ans à peu près, non, 50 ans.
Ouais, la petite cinquantaine. Ouais. Mais c'est vrai que c'est triste, on n'a pas de photo de Marguerite Audoux jeune. Mmh. On aurait aimé savoir comment elle était. On dit qu'elle était assez belle.
Elle a un visage assez beau, mais c'est une femme
très beau. Ouais.
C'est une femme qui est robuste,
très
on va dire.
Oui, oui. Mais alors, bon, c'était aussi notre époque. Mais là, quand elle s'est fait connaître, elle avait déjà la bonne quarantaine. Puis à l'époque, c'était pas, on se soignait pas de la même manière. Donc c'est vrai qu'elle fait un peu plus tassée, enfin un peu plus ronde.
mais
elle est très belle.
Alors lui, Michel, c'est un écrivain qui a du mal quand même à écrire. Vous dites qu'il met 10 ans à écrire un roman. Il n'y arrive pas. Et sa lutte à lui, ça va elle déclencher. On dirait presque qu'il y a comme un transfert entre eux.
C'est vrai.
C'est que son combat à lui avec l'écriture, elle paradoxalement va écrire Marie-Claire. Je ne sais pas comment elle l'a écrit. Ça, vous allez nous le dire, mais. Avec une certaine, même s'il y a des fautes d'orthographe, même s'il y a des choses à, mais elle, avec un certain naturel, voilà.
Oui, c'est vrai qu'on peut pas, on peut difficilement imaginer deux figures d'écrivains aussi différents. Hein. Michel Yel, il est obsédé par l'écriture, il lit énormément, il est très cultivé. L'écriture, son manuscrit, hein, ce fameux manuscrit qui va finir par publier chez Gallimard, chez la NRF. la même année que quasiment que Marie-Claire, hein, en 1910, qui s'appelle Kawé. Donc ce texte-là, il va le travailler pendant 10 ans. Il l'appelle son radeau de la Méduse. Hein, vraiment, il va le bosser, le rebosser, le réécrire, etc. Alors qu'à côté de ça, il y a Marguerite Audoux qui, dans l'ombre, sans en parler au début,
discrètement,
très discrètement, presque clandestinement, elle écrit la nuit sur des cahiers d'écoliers. Elle écrit des bribes de souvenirs de son enfance, etc. Et on a et c'est vrai que moi je l'ai lu le texte, le livre de Michel Hiel, qui a d'ailleurs pas beaucoup marché, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais.
Et c'est un livre bien écrit, mais c'est vrai que c'est très 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 esthétisant, très précieux, très compliqué, très métaphorique. À côté de du style très limpide, très naturel, comme vous l'avez dit, de Marie-Claire, oui, on peut difficilement plus opposer.
Vous dites se dépasser, mais avec modération, c'est un de ses paradoxes. Ça, c'est le paradoxe de Marguerite Audoux. Mmh. Et je pense que c'est lui qui parle d'elle, ou peut-être quelqu'un d'autre. Je fus surpris de trouver chez cette ouvrière un goût si sûr, un sens critique si avisé. Donc, mine de rien, elle fait son chemin, Marguerite. Hein. Elle, à force de. Et puis, il faut dire aussi que dans ses ateliers de couture, j'ai l'impression qu'il y a toute une comédie humaine qu'elle voit, puisqu'elle voit d'autres, des femmes, des bourgeoises qui viennent, elle voit toute la ville. Elle est quand même témoin des coulisses de Paris aussi.
Oui, alors ça, c'est l'objet de son deuxième roman, hein, L'Atelier de Marie-Claire, qui est un livre magnifique, parce qu'on parle beaucoup toujours de Marie-Claire, qui est son best-seller, hein, 1910, prix Femina, 100 000 exemplaires vendus, traduits en plein de langues, salué par les plus grands écrivains de l'époque, les plus grands intellectuels de l'époque, ça, il faut vraiment insister. C'est vraiment un livre qui a été aimé et qui a eu un succès populaire et élitiste, intellectuel. Mmh. Et ça, c'est rare, c'est très rare. Elle a été aimée par une amie qui le lisait à ses parents paysans illettrés. Et elle a été aussi aimée par un Valéry Larbaud, par un Marcel Proust, par un Marcel Schwob, enfin, je veux dire, par André Gide, par toute la bande de la NRF. La bande de la NRF, c'est quand même la revue de la NRF. Il faut savoir que c'était une revue qui prônait un style désengagé, surtout pas politique, surtout pas à message. Tout était pour la forme et pour le style. Et bien, ces gens-là, ils ont aimé l'écriture, j'allais dire presque paysanne, mais l'écriture simple de Marguerite Audoux. Donc, bref, tout ça pour dire que donc Marie-Claire, ça a été son grand succès. Mais 10 ans plus tard, elle a publié en 1920 L'Atelier de Marie-Claire.
Oui,
et L'Atelier de Marie-Claire, c'est plus un roman social, un roman reportage, où en effet, tout L'Atelier de Marie-Claire, c'est un roman magnifique. Ça raconte le quotidien de 5, 6, 7 ouvrières, jeunes femmes, jeunes filles, femmes plus mûres, leur quotidien dans l'atelier. Elles cousent, elles discutent, elles chantent, elles fredonnent des airs de leur région d'origine. Elles se souviennent, elles racontent des souvenirs. Elles regardent par la fenêtre. Mmh. Elles racontent ce qui leur arrive. Une femme qui se fait battre par son mari. Une autre qui tombe enceinte, elle n'en a pas envie. Comment s'en débarrasser. Une autre qui se fait séduire par un homme et qu'elle n'aime pas. Enfin, c'est une chambre d'écho. L'atelier de Marie-Claire, c'est une chambre d'écho de toutes les préoccupations de jeunes femmes prolétaires dans le Paris de la Belle Époque. Et c'est un gynécée, c'est une ruche.
Oui, c'est une ruche.
C'est une ruche. Et L'Atelier de Marie-Claire, c'est un très beau livre, d'ailleurs, qui a été parfois préféré à Marie-Claire, notamment par Valéry Larbaud, un grand écrivain, Larbaud, et ami de Marguerite Audoux, qui disait que lui, il préférait presque L'Atelier, tellement. Voilà.
C'est la vie, c'est ça. On sent aussi que c'est une femme dans la vie citadine qui fait partie d'une époque, une époque où les femmes travaillaient dur, elles assumaient seules souvent aussi leur subsistance. Alors vous me dites, vous écrivez, Marguerite Audoux n'a pas le réflexe d'emprunter aux autres les mots qu'elle ne trouve plus chez elle. Et puis, elle avait très peu lu. C'est son meilleur ami, Francis Jourdain, qui le dit. Elle a toujours écrit avec ce grand rien, n'a jamais convoqué d'autres géniteurs textuels qu'elle-même. Ses phrases, elle les a enfantées, seule, sans le soutien d'un accoucheur. Mais malgré tout, il y a Michel Hiel qui est là.
Oui, elle a été clairement coachée par tous ses amis et qui avaient un rapport avec la littérature.
Alors, lui,
et l'art. Michel Hiel.
Il la présente au gratin quand même de l'époque.
Exactement.
Hein, il la présente, je crois, aussi à Charles-Louis Philippe. Il la présente. Il y a tout un. Il y a Francis Jourdain, il y a Léon-Paul Fargue.
Léon Werth, André Gide.
Ils se retrouvent, tous ces gens-là, forment le groupe du Carnétin.
Oui, exactement.
C'est quoi le groupe du Carnétin?
Alors, c'est Bernard-Marie Garot, hein, qui est le spécialiste aussi hein, de Marguerite Audoux et qui l'a fait connaître dans les années 90 par une belle biographie universitaire. Donc, c'est Bernard Margaro qui appelle cette bande de copains la bande de Carnetin, parce qu'en fait, donc, Marguerite Audoux se met à devenir copine avec les amis de son amant, hein, donc tous ces gens-là dont on a parlé. Alors, à l'époque, ils sont moins connus que 20 ans plus tard. Hein, oui. Ils sont jeunes, hein, faut pas oublier, ils étaient tous plus jeunes que Marguerite Audoux. Marguerite Audoux, c'est leur grande sœur. Elle a la trentaine, bonne trentaine, eux, ils en ont 20 à peine, hein, donc ils ne sont pas encore connus. Mais tout de suite, il tombe un peu amoureux de cette femme. Alors c'est le grand mystère aussi de Marguerite Audoux. Comment est-ce qu'elle a pu plaire à ces gens qui venaient pas de son milieu, qui étaient plutôt bourgeois, très très intellectuels, très engagés? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant aimé Marguerite Audoux? Sans doute qu'elle avait un charme.
Elle savait peut-être écouter.
Elle savait écouter. Je pense qu'elle savait bien raconter aussi des histoires tirées de son enfance et de son enfance rurale, paysanne, orpheline. Et c'était une femme très qui avait le sens de l'hospitalité. Elle habitait donc au 6e étage d'un immeuble dans le 14e arrondissement et elle accueillait facilement. Sa porte était ouverte. Les gens venaient souvent chez elle. Elle faisait une petite tambouille. Elle préparait à manger. Elle était très généreuse. Donc c'est une femme très accueillante. Et donc c'est rigolo, hein. Elle tenait pas salon. Mais elle tenait un peu salon finalement dans son petit studio dans sa chambre de bonne du 6e étage où tout le monde se pressait. Alors qu'il y avait la voisine de palier, il y avait la concierge, il y avait une couturière, mais il y avait aussi Valérie Larbeau, richissime de par la fortune de son père. Il y avait aussi Charles-Louis Philippe, hein, un grand écrivain réaliste.
C'est lui qu'elle préfère. Hein.
Oui, c'est son meilleur ami.
Socialiste anarchiste, donnant raison aux lanceurs de bombes, admirant le courage de certains criminels, il nourrit un culte pour les pauvres. En fait, le sujet de ses trois romans, dont le plus célèbre, Bubu de Montparnasse.
Oui, Charles-Louis Philippe.
C'est lui. Alors, vous dites d'ailleurs, vous racontez leur... Elle se tourne vers Philippe et lui tend une main qu'il saisit aussitôt. Les quatre mains des deux myopes se touchent, se testent, se pressent. Philippe les a blanches et douces, Marguerite étroite et rurale. Ça ira quand même. Il y a deux mondes qui se respectent. Il y a beaucoup de respect entre tous ces écrivains qui ne sont pas encore célèbres. Il y a beaucoup de
gentillesse, beaucoup d'amitié. Ouais. Ils avaient des valeurs communes, clairement, l'amitié. Ils étaient tous quand même assez socialistes, assez à gauche. Hein. Certains même étaient anarchistes, comme Léon Werth. Ils étaient également... ils aimaient la nature. Et ça, c'est vrai que régulièrement, le dimanche, ils prenaient le train gare du Luxembourg et ils allaient en région parisienne pour aller marcher. Oui. À un tel point, ils aimaient tellement la nature qu'ils ont décidé un jour, donc on est au tout début du XXe siècle, 1904 à peu près, ils décident de louer collectivement une ruine à Carnetin, voilà. Petit village en Seine-et-Marne.
C'est là, nous y sommes.
Exactement. Et là, ils s'y retrouvent dès qu'ils ont des congés, dès tous les dimanches. Ils y vont tous. Ils arrivent avec des coups. La ruine, elle était vide, hein, donc ils arrivent avec un meuble, un rouleau de peinture pour repeindre les murs en jaune. Francis Jourdain aimait le jaune, hein, ça lui rappelait Van Gogh. Ils viennent avec des fourchettes. Il y en a un autre qui vient avec une gravure pour cacher les murs lépreux de la ruine. Ils s'y retrouvent et là, ils dessinent, ils écrivent, ils mangent, ils boivent, ils se promènent beaucoup. Et c'est pour ça que Bernard Margaro a appelé cette bande la bande de Carnetin, et ça a duré 4 ans. Hein. Ils se sont retrouvés régulièrement dans cet endroit. Et puis, ils invitaient d'autres copains. On retrouve Gaston Gallimard, Régis Gignoux. Enfin, un peu les intellectuels qui sont devenus ensuite plus connus de l'époque, qui venaient les rejoindre dans ce village.
Alors, Michel, il va vivre combien de temps avec Marguerite, Michel, à peu près?
Leur liaison durera 10 ans, à peu près.
10 ans, une dizaine d'années. Mmh. Hein. En 1912, il termine le livre Maudit et publie Cahouette. Chez ses copains de Gallimard. Ce sera un flop. Puis un second, Le Déserteur. Et puis c'est tout. C'est celui qui les a lus. Lève la main, excusez-moi. Vous pouvez peut-être nous lire quand Michel... il y a une séance de lecture, je crois, où il lit le livre, les textes de Marguerite Audoux.
Oui, ça c'est un passage où ils sont à Carnetin.
Voilà.
Et je mets en scène Michel Yel en train de en train d'écrire sur son propre manuscrit à lui, hein, oui. qui sera le futur
Kaweh. Ah bon, voilà,
c'est, oui, son, oui, c'est son manuscrit. Et ce qu'il aimait, c'était, bon, c'est assez classique, hein, ce qu'il voulait, c'était tester sa phrase.
Ah, voilà.
Parce qu'une fois qu'il l'a écrite, c'est bien beau, mais est-ce qu'elle marche vocalement? Est-ce que sa sonorité est belle? Donc régulièrement, le matin, il se levait très très tôt, il réveillait surtout personne, hein, c'était fait discrètement, et il allait dans la campagne pour essayer de faire résonner son texte. Donc je lis le passage. « Sa voix résonne dans l'air, accompagnée de gestes du bras qui martèlent l'air pour les mots qu'il estime plus sonores que les autres. Son pied scande le rythme des phrases. Sa voix est de plus en plus forte, comme enivrée d'elle-même. Elle se met à tantôt clamer, tantôt chanter. Parfois, il ferme les yeux et récite par cœur les passages qu'il a tant de fois travaillés. Les gestes aussi sont de plus en plus désordonnés. Ça s'emballe comme un possédé de son propre moi. Car ce qu'il lit et teste ainsi au contact de l'air, c'est le brouillon de son futur livre. » Kaweh. Et il trouve ça vraiment magnifique. Oui, vraiment. Les efforts d'hier ont payé. C'est beaucoup mieux. Les mots expulsés de la page par la voix dans l'air, c'est comme des ciseaux qui coupent ou des ailerons de requin qui fendent. Parfois, c'est le contraire. C'est vibrant comme un velouté. Ça tapisse la langue. Ça laisse un goût très doux, entêtant. Mais justement, est-ce que ça n'est pas écœurant? Un peu lourd, ce début de paragraphe. Un peu grasse, cette phrase. Un peu visqueux et insistant. Ça s'accroche au lieu de s'évaporer comme des empreintes de pas mouillées et laisser place au pas suivant. Ça manque de légèreté. La voix de Michel a baissé d'un cran, s'embourbe sur le même passage. Les mots à la fin sont plus courts que ceux du début. La cadence majeure n'est pas respectée. Du coup, normal, ça gêne son oreille absolue, cette différence de volume, c'est très désagréable. Pourtant, hier, ça fonctionnait, lui semblait-il. En fait, pas du tout. Michel déchire la feuille. Mais c'est pas possible. Mais combien de temps ça va continuer de voir la pierre hisser hier jusqu'au sommet, dévaler ensuite la pente et demain il faudra tout recommencer? Il pousse un gémissement.
Et voilà, c'est son combat à lui. Et c'est vrai. Alors que vous dites pour Marguerite Audoux, ses outils d'écrivain n'ont jamais été que sa vie, ses sensations et le ciel. Parce que c'est une femme qui aime la nature. Qui aime l'écoute aussi, qui est assez réceptive au monde qui l'entoure. C'est peut-être ça la grande force de Marguerite Audoux, Géraldine Doutriot.
Oui.
Je crois que c'est Simenon qui disait qu'un romancier devait être une éponge. J'ai l'impression qu'elle est, elle s'imbibe, elle s'imprègne de la vie, mais de la vie des gens des plus simples, mais qui sont complexes. Ce sont des vies complexes. Hein. Ce sont des vies qui, avec beaucoup de respect, je trouve, hein, dans sa phrase.
Oui, alors c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment elle écrivait. Elle a très peu communiqué là-dessus. On sait qu'elle écrit. On est presque sûr qu'elle écrivait avant d'avoir connu Michel Yael. Ce n'est pas Michel Yael qui l'a fait écrire. L'écriture existait déjà dans sa vie, mais sous forme de bribes, de petites notes, etc. Et ce sont ses amis qui l'ont poussé à faire de ces bribes un vrai récit. Alors c'est vrai, Marguerite Audoux, la beauté de son style, et ça il faut vraiment en parler, c'est en effet c'est une éponge, mais c'est vraiment lié au fait qu'elle a, surtout dans Marie-Claire, donc son premier livre, elle adopte le point de vue d'un enfant. C'est ça l'originalité de Marie-Claire. Pourquoi Marie-Claire a autant plu? Parce que la narratrice, c'est cette petite fille qui parle. Et c'est une petite fille qui vous parle. Et cette voix-là, elle est très singulière. Parce que c'est rare, finalement. Alors, il y a Jules Vallès dans L'Enfant. Mais enfin, le narrateur de L'Enfant, c'est pas la voix d'un enfant. Hein. C'est la voix d'un adolescent rebelle. Il n'y a pas du tout ça. Dans Marie-Claire, c'est vraiment
le côté
une cristal. Petite fille qui reçoit les choses un peu passivement. Ouais. Et qui, sans arrière-pensée, et qui les restitue d'une manière vraiment limpide, sans arrière-pensée, sans jugement, comme une ignorante, c'est ce que je dis dans mon livre. Mais c'est vrai qu'elle, d'ailleurs, on baptisera le style de Marguerite Audoux, un journaliste de l'époque parlera du style « petite fille ».
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a un côté très enfantin. Alors évidemment, c'est très travaillé, hein, tout ça. Hein. Mais... elle a un style... est-ce que je peux lire juste le début de Marie-Claire?
Oui, vous pouvez.
Juste pour vous montrer, enfin, voilà, parce que sinon c'est un peu, ça reste un peu abstrait, mais regardez, c'est vraiment super. Alors ça, c'est le début de Marie-Claire. Un jour, il vint beaucoup de monde chez nous. Les hommes entraient comme dans une église et les femmes faisaient le signe de la croix en sortant. Je me glissais dans la chambre de mes parents et je fus bien étonnée de voir que ma mère avait une grande bougie allumée près de son lit. Mon père se penchait sur le pied du lit pour regarder ma mère, qui dormait, les mains croisées sur sa poitrine. Notre voisine, la mère Cola, nous garda tout le jour chez elle, À toutes les femmes qui sortaient de chez nous, elle disait « Vous savez, elle n'a pas voulu embrasser ses enfants. » Les femmes se mouchaient en nous regardant et la mère Cola ajoutait « Ces maladies-là, ça rend méchant. » Les jours qui suivirent, nous avions des robes à larges carreaux blancs et noirs. La mère Cola nous donnait à manger et nous envoyait jouer dans les champs. Ma sœur, qui était déjà grande, s'enfonçait dans les haies, grimpait aux arbres, fouillait dans les mares et revenait le soir, les poches pleines de bêtes de toutes sortes qui me faisaient peur et mettaient la mère Cola bien en colère. J'avais surtout une grande répugnance pour les vers de terre. Cette chose rouge et élastique me causait une horreur sans nom et s'il m'arrivait d'en écraser un par mégarde, j'en ressentais de longs frissons de dégoût. Les jours où je souffrais de point de côté, la mère Cola défendait à ma sœur de s'éloigner. Mais ma sœur s'ennuyait et voulait quand même m'emmener. Alors, elle ramassait des vers, qu'elle laissait grouiller dans ses mains, en les approchant de ma figure. Aussitôt, je disais que je n'avais plus mal, et je me laissais traîner dans les champs. Une fois, elle m'en jeta une grosse poignée sur ma robe. Je reculais si précipitamment que je tombais dans un chaudron d'eau chaude. La mère Cola se lamentait en me déshabillant. Je n'avais pas grand mal. Elle promit une bonne fessée à ma sœur. Et comme les ramoneurs passaient devant chez nous, elle les appela pour l'emmener. Ils entrèrent tous les trois avec leurs sacs et leurs cordes. Ma sœur criait et demandait pardon. Et moi, j'avais bien honte d'être toute nue.
On va faire, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale.
L'écrivaine et la compositrice sont mortes la même année. Il s'agit de Mel Bonis. Et là, c'est Femme de légende. C'est dans une série Femme de légende. Et c'est Onfale. C'est Anna Celeste au piano qui joue Mel Bonis. Mel Bonis était du même milieu que Marguerite Audoux. Sa mère était couturière à domicile. C'est un enregistrement de 2024.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui avec Géraldine Doutrio pour le cas Marguerite Audoux, ça vient de paraître aux éditions des Femmes, Antoinette Fouque. Marguerite Audoux qui se confie à Charles-Louis Philippe, Géraldine Doutrio, et qui dit « Tu sais, le premier livre que j'ai lu, c'est un livre de chansons, c'est le frère de mon patron quand j'étais bergère qui me l'avait offert ». Donc la chanson, peut-être, la chanson, peut-être que ce qu'on appelle aussi la chansonnette.
Oui.
Cette simplicité dans le style, dans l'écoute.
C'est une hypothèse. Dans... Ouais,
pour, ça peut être aussi ça, sa formation.
Parmi ses sources d'inspiration, oui, parce que finalement, elle a lu Télémaque hein, de Fénelon. Elle dit aussi avoir lu un peu de Chateaubriand quand elle était jeune. Mais finalement, elle fait peu mention de sources d'inspiration littéraire. On sait qu'elle a lu Dostoïevski vers la quarantaine, parce que Dostoïevski à l'époque était très très lu. Et ses amis le lui ont recommandé, elle a aimé. Elle a aimé Dostoïevski, mais bon, voilà, à part quelques références littéraires, il y en a peu. Alors, c'est possible, en effet, qu'elle ait été finalement inspirée par le style des chansons. Elle était bergère, hein. Une fois que, à l'âge de 12 ans, hein, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'elle a quitté l'orphelinat et elle a été placée comme bergère dans une famille de fermiers. Et on sait que les chansons étaient très chantées, pratiquées, écoutées. Et d'ailleurs, dans Marie-Claire, elle évoque un livre de chansons que lui offre le frère de son maître, du fermier, et qu'elle lit et relit. Donc on peut imaginer que ça peut être une de ses sources d'inspiration. La chanson populaire.
La chanson populaire. Alors, elle n'avait pas beaucoup d'orthographe. C'est l'une des premières choses que Vinicius a écrit sur Vinicius. Elle sait tout, juste l'orthographe. Elle se tire mal de la ponctuation. Vous écrivez pas de points, mais des virgules, des majuscules après les virgules. Une confusion au niveau des homophones, A au lieu de A, ou au lieu de ou l'inverse. L'omission d'accent, pas d'accord de participe passé avec l'auxiliaire avoir, pas de S à la deuxième personne du singulier. Et vous dites, c'est comme ça que le désir de la littérature s'est infiltré en elle par le petit trou de souris creusé par les chansons, justement.
Ouais, ouais.
Donc c'est vrai qu'elle est un peu autodidacte. Hein.
C'est une autodidacte, totalement une autodidacte.
Elle apprend petit à petit à...
Oui, c'est une autodidacte, mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus une autodidacte comme Jack London ou d'autres, beaucoup d'autres de cette époque d'ailleurs, ou qui étaient des ouvriers, mais qui savaient lire et écrire, contrairement aux générations précédentes, grâce à l'école gratuite et obligatoire, hein, qui vient un peu après. Donc, ils savaient lire et écrire. Et donc, le soir, ils allaient aux universités populaires, ils se documentaient, ils allaient lire, ils allaient échanger, etc. Il y a tout ce mouvement. Hein, à la fin du 19e siècle, en France, il y avait quand même plus de 200 universités populaires qui ont été créées comme ça, qui ont poussé comme des champignons dans le sillage de l'affaire Dreyfus. Ça, c'est vraiment un phénomène intéressant où c'était des savants, des universitaires qui allaient donner gratuitement des cours aux ouvriers pour un peu, alors des cours de sciences, de physique, de chimie, des cours sur d'hygiène, comment tenir un budget, comment éviter l'alcoolisme. Enfin, c'était des cours sur tout et n'importe quoi, hein, les universités populaires. Et donc, Marguerite Audoux aurait pu fréquenter ces universités populaires. Elle aurait pu vouloir combler les lacunes de son enseignement rudimentaire hein, qu'elle avait connu. Hein, elle avait eu très peu d'école. Et non, c'est pas non plus une autodidacte comme ça, assoiffée de savoir et de lecture. Elle a lu. À mon avis, elle a beaucoup relu les mêmes textes, mais il semble que ça lui a suffi. On ne sent pas, comme d'autres écrivains prolétaires qui sont arrivés un peu après elle, une soif comme ça de culture, de combler, etc. Elle n'est pas comme ça. Elle assume son côté prolétaire, ouvrier. Elle assume, j'ai envie de dire, sa pauvreté. Enfin, je veux dire, elle en fait presque même une noblesse.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand elle se présente, quand elle rencontre Charles-Louis Philippe, elle dit « Je crois que je serai votre amie du peuple, mais je ne serai pas une femme sous influence. »
Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Elle garde son quant à soi.
Ouais.
Et elle n'est pas forcément facile, Marguerite Audoux. Elle a sa personnalité. Mm. Vous dites qu'elle a quelque chose de Bartleby, de Melville, avec cette fameuse phrase « Je préfère ne rien dire. » Enfin, je préfère, il préférait ne pas parler entêté dans ses refus, mais en toute discrétion, dites-vous, sans fracas, sans révolution. Donc
oui.
C'est une femme qui est telle qu'elle, qui a son passé, qui l'assume,
qui assume,
qui
assume mais ne le revendique pas.
Voilà.
C'est pas du tout... Oui, alors dans Marie-Claire, hein, ce récit d'enfance, hein, dont je vous ai lu tout à l'heure le début, on le voit, hein, c'est vraiment plusieurs fois, on accuse Marie-Claire d'avoir menti, etc. Et à chaque fois, elle dit, bah non, je n'ai pas menti. Et puis quand on lui demande de s'expliquer davantage, de prouver sa sincérité, bah elle le refuse. En gros, il y a chez elle un côté un peu résigné. Elle dit, bah non, moi je sais que j'ai raison. Donc si vous voulez pas me croire, bah tant pis pour vous. Donc elle a une... elle parle peu et c'est vrai que ma biographie je la compare à Jeanne d'Arc, mais parce que dans le procès de Jeanne d'Arc il y a un côté comme ça où on n'arrête pas de lui demander des explications, etc. Et elle dit non, mais c'est bon, je me suis déjà expliquée, je vais pas me répéter. En fait, se répéter, ça serait presque se dédire. Se répéter, ce serait presque un peu humiliant. Donc oui, il y a quelque chose de fier chez Marguerite Audoux. Elle sait qu'elle est dans le juste, dans le vrai, elle n'a pas à s'expliquer. Elle triche pas, elle n'a pas à s'expliquer, s'expliciter davantage. Voilà, il y a un refus.
Alors, je voudrais qu'on parle. Alors, Marie-Claire paraît en 1910.
Ouais.
Bon, alors, ça fait. Elle va avoir le prix Fémina, hein, quand même, c'est pas rien. Et elle a beaucoup des admirateurs, dont Alain Fournier. Alain Fournier, c'est un peu les deux livres. Entre Marie-Claire et le Grand Maulne, deux livres, vous dites, le jeune Alain Fournier, ébloui par sa lecture de Marie-Claire, le journaliste de 24 ans, pas encore l'auteur du Grand Maulne, décide de se rendre sur les lieux du roman. Ouais. Vous dites, il enfourche un jour d'été 1911 sa bicyclette, 30 ans après les faits racontés dans le livre. Je ne cesse de penser à l'histoire d'amour de Marie-Claire, dit-il, dans une longue lettre adressée à Marguerite. Il lui raconte son pèlerinage qui a pris un tour angoissant. Alors, c'est quand même deux rencontres. Hein. Alain Fournier qui va mourir très jeune, hein, et puis Marguerite Audoux. Tous deux des enfants de la campagne, finalement, de cette ruralité-là. Enfin.
Oui, et d'ailleurs de régions très proches, hein, la Chapelle d'Anguillon et Sainte-Montaigne, où elle a été bergère, c'est très très proche, hein, on peut y aller, c'est 20 minutes en voiture, même pas. Oui, alors elle a rencontré Alain Fournier, c'est un jeune journaliste qui est à Paris et qui est en effet ébloui par Marie-Claire, hein, littéralement. Il adore ce livre. D'ailleurs, il écrit plusieurs articles à son sujet, des articles très élogieux, et il devient groupie, et il veut tout de suite faire la connaissance de Marguerite Audoux, il veut aller sur les lieux racontés dans le récit Marie-Claire, donc il va en Sologne, et il veut tout voir, il va aller voir la ferme des propriétaires où elle a été bergère, et il va même interviewer les gens pour savoir s'ils se souviennent de cette petite bergère qui est devenue une écrivain connue. Et donc c'est pour dire qu'il était fan, et on dit aussi que Le Grand Maulne, donc son chef-d'œuvre, son seul et unique roman, il a réussi aussi à l'écrire, parce qu'il était pas mal empêtré, hein, lui aussi, dans l'écriture un peu artiste, esthétisante, un peu comme Michel Hiel, et il n'arrivait pas à se dénouer pour écrire Le Grand Maulne. Et on dit que c'est la lecture de Marie-Claire et le contact avec cette sensibilité si simple, si limpide, ce style si simple, qui aurait créé presque un déclic et qui lui aurait permis d'écrire, qui l'a aidé en tout cas, et qui a été une de ses sources d'inspiration pour écrire Le Grand Maulne. Donc il écrit Le Grand Maulne, et puis très vite il part à la guerre, à la Première Guerre mondiale, et il meurt dans les tranchées très vite. Et ça va beaucoup, beaucoup marquer Marguerite Audoux, parce qu'ils ont entre-temps eu une vraie relation d'amitié très forte. On sait qu'une des dernières lettres de Alain Fournier était destinée à Marguerite Audoux. D'ailleurs, il lui demande, hein, il est dans les tranchées, et il demande à Marguerite Audoux de brûler c'est les lettres qu'il lui a envoyées dans le passé, parce que dedans il y a des confidences sur sa vie amoureuse, sentimentale. Et d'ailleurs, hélas, elle a bien brûlé les lettres d'Alain Fournier, donc on les a pas. Dommage, on aurait bien aimé savoir ce qu'il lui racontait. Donc voilà, ça c'est une mort qui a beaucoup marqué Marguerite Audoux, qui a adoré Alain Fournier.
Voilà, vous écrivez, une des œuvres françaises les plus lues au monde doit un peu sa naissance à une des œuvres françaises les moins lues aujourd'hui. C'est un peu un équivalent littéraire de la guerre des sexes entre Le Grand Maulne et Marie-Claire. C'était forcé que le premier gagne. On va faire une petite pause musicale.
Alors, désolée pour la perceuse, hein, qui nous dérange un peu beaucoup. Dans les années 30, eh bien, puisque les couturières chantaient en travaillant, l'écrivaine s'en souvient, elle en parle des chansons, eh bien, je vous propose Réventura sifflé en travaillant. Est-ce que ça vous va ?
Oui, très bien.
Thank you. travail vous excède, si votre ardeur devient tiède, gaiement allez-y d'un petit air. Quand votre esprit est morose, chantez, fait voir tout en rose, car la musique adoucit les nerfs. En travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux.
Chassez les soucis, détraquez les ennuis et voir toujours d'un jour
brillant.
Suivez ce remède excellent.
Vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant.
Bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui avec Géraldine Doutrio pour le cas Marguerite Audoux. Ça vient de paraître aux éditions Des Femmes, Antoinette Fouque. Géraldine Doutrio, c'est vrai que quand Marie-Claire est publiée, il y a beaucoup de réactions. Je crois que Marguerite Audoux reçoit une lettre d'une bergère en Sologne qui s'appelle Rose Barberousse, d'ailleurs. C'est assez... Elle dit, elle écrit « Je vous admire sincèrement, madame. Vous avez su intéresser le monde à la simple histoire d'une fille des champs, à tous les détails de sa vie qu'on a assez l'habitude de mépriser. » Donc, elle a un grand... Son aura, enfin, ça... elle va avoir des lecteurs, beaucoup de lecteurs. L'effet de Marie-Claire va... Ça va être grandissant, c'est-à-dire elle a des lecteurs.
Oui, oui, elle a
c'est
des lecteurs.
C'est un phénomène de librairie, on pourrait dire.
Oui, exactement. Oui.
Je crois qu'il y a beaucoup de tirages qui sont faits de Marie-Claire.
Oui, 100 000 exemplaires vendus, ce qui est énorme à l'époque. Donc, succès critique et populaire, hein, comme vous le dites. Vous citez cette jeune bergère qui écrit une lettre. Parce qu'elle est touchée de voir qu'on parle enfin de son métier dans la littérature. Et en plus, c'est écrit par une ancienne bergère. C'est ça qui est intéressant chez Marguerite Audoux. Et c'est pour ça qu'on l'étiquetera comme une écrivain prolétarienne, parce que c'est une prolétaire qui parle de son milieu social. En réaction à tous ces écrivains naturalistes comme Émile Zola, qui étaient des bourgeois et qui parlaient d'un milieu social, qui en parlaient d'ailleurs très bien, mais qui ne venaient pas de ce milieu-là. Et donc, elle fait partie de ceux qui ont un peu ouvert un nouveau ce mouvement de la littérature prolétarienne qui a ensuite été théorisé dans les années 30 par Henri Poulaille, où on invitait les ouvriers à s'emparer de la littérature et de prendre la parole à leur tour pour parler de ce que eux ils connaissaient, de ce que eux ils avaient vécu vraiment. Et donc Marguerite Audoux est l'une des rares femmes qui est citée dans tous ces manifestes de littérature prolétarienne, d'art social, etc. Et c'est aussi pour ça qu'elle a touché, parce que le public savait ça. Parce qu'il faut savoir que quand elle a publié Marie-Claire, très vite, il y a eu plein de journalistes qui sont venus frapper à la porte de son studio pour l'interviewer. Et c'est là qu'on s'est mis à la prendre en photo et qu'on s'est mis à lui demander « Alors, c'est quoi votre vie? Qui êtes-vous ?» etc. Et c'est aussi un succès... un peu people, parce que c'était frappant de voir comme ça une pauvre couturière qui vivait dans un tout petit réduit. Bon, elle a quand même réussi, grâce à l'argent du prix Femina, à l'agrandir d'une deuxième pièce. Mais quand même, c'était aussi un phénomène un peu, pas de foire, mais il y avait un petit côté comme ça. On insistait beaucoup sur le poète dans sa mansarde. En plus, il faut savoir que c'est le moment où elle s'est mise à avoir beaucoup de douleurs aux yeux. Donc en plus, elle est presque qu'aveugle. Et d'ailleurs, ils ont joué sur cette carte. Parce qu'il faut savoir que Marie-Claire, à l'époque, a été publiée avec une préface magnifique signée par Octave Mirbeau. Alors quand même, je vous lis un passage de la préface. Ça commence comme ça. Francis Jourdain, un soir, me confia la vie douloureuse d'une femme dont il était le grand ami. Couturière, toujours malade, très pauvre, quelquefois sans pain. Elle s'appelait Marguerite Audoux. Malgré tout son courage, ne pouvant plus travailler ni lire, car elle souffrait cruellement des yeux, elle écrivait.
Tout est dit.
La fonction promotionnelle, publicitaire de la préface, elle est magnifique cette préface, par ailleurs. Ouais, mais bon, là, il met vraiment, il y avait un côté, ça faisait pleurer, quoi. Et c'est vrai que ça a très bien marché aussi.
Alors, ce que vous montrez aussi, Géraldine Doutriot, d'abord qu'il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres personnalités de la campagne qui ont écrit. Vous parlez d'Émile Guillaumin, d'Antonin Dussert, un paysan auvergnat qui est auteur de Jean-Louise. Beaucoup ont été oubliés. Ce qu'on appelle les écrivains, on l'attaque sur d'écriture prolétarienne, soit de l'écriture régionaliste aussi.
Ouais, voilà. On n'aime pas ça en France.
Voilà, on n'aime pas ça. Donc il y en a eu beaucoup qui sont. Vous citez ces noms. Vous citez Roscombe, par exemple, qui a écrit sur des livres sur l'Auvergne. Raymonde Vincent, gardienne de Vannes. Enfin, vous citez tous ces noms-là. Et puis vous montrez. Justement l'écho qu'elle a eu. Je crois que c'est Alice Rivas qui écrit un très bel article sur Marguerite Audoux. Voilà ce qu'elle dit. Certaines pages entrent dans le cœur du lecteur, se creusant en lui un chemin très profond, l'atteignant à des parties mortes, panées, pas encore réveillées, lui faisant très mal d'abord, lui causant même une sorte de blessure. Mais c'est une blessure bienfaisante, nécessaire, causée par l'éveil d'un sentiment nouveau, celui de la sympathie humaine. Elle est sympathique.
Ouais,
la sympathie, c'est partager aussi une douleur, partager une condition de vie. Oui. Elle est dans quelque chose qui est silencieux, finalement, Marguerite Audoux. Elle partage silencieusement sa condition de femme.
Et c'est vrai qu'Alice Rivas, je pense qu'elle a été très sensible au fait que dans ses deux premiers romans, Marie-Claire et l'atelier de Marie-Claire, il y a toute une galerie de personnages, hommes et femmes, qui sont très émouvants. C'est jamais manichéen. Il y a quelques êtres vraiment mauvais, mais il y en a très peu. C'est toujours nuancé. Et il y a toujours quelque chose d'émouvant. D'ailleurs, elle compare souvent ces personnages à des animaux. Il y a tout un bestiaire aussi chez Marie-Claire, peut-être chez Marguerite Audoux, du fait de son enfance rurale.
Bien sûr.
Elle animalise beaucoup ses personnages et elle aime bien toujours leur trouver une excuse. Il y a toujours de l'espoir. C'est pas tout noir, tout blanc. Et c'est aussi pour ça que c'est une œuvre sympathique. C'est-à-dire, on est ému par tous ces personnages, et surtout dans l'atelier de Marie-Claire, il y a tous ces portraits de jeunes filles, là, dont je vous parlais, de jeunes femmes et de jeunes filles. Elles sont toutes, même avec leurs défauts, etc., elles sont toutes émouvantes. Et il y a aussi beaucoup de solidarité dans l'atelier de Marie-Claire, entre toutes ces jeunes couturières. Pourtant, elles ne se ressemblent pas, parfois elles ne s'aiment pas, elles se chamaillent, etc. Mais il y a quand même toujours il y a une solidarité et c'était sans doute réel, authentique. Il n'y a pas du tout, c'est pas du tout sentimental ou cucu la praline. Et c'est vrai que c'est aussi un aspect émouvant de son œuvre.
Voilà ce que dit Francis Jourdain, l'ami fidèle. Elle avait très peu lu, de rares promenades à travers les livres. Elle revint sans avoir contracté une dette ni opéré un placement. Elle comprenait et elle aimait. Elle ne fut ni enseignée ni renseignée par le livre, jamais tentée d'étudier une technique, de manier l'outil du professionnel dont elle n'enviait ni ne méprisait l'adresse. Et il faut dire que ces fautes d'orthographe, ça va être corrigé en Valérie Larbeau, qui va s'occuper un peu de lisser le manuscrit de Marie-Claire. Elle a ses amis qui l'aident et qui la soutiennent. Et elle, sa phrase préférée, c'est « Je suis si loin des gens de lettres. Je suis si loin des gens de lettres. »
Alors, il y a deux choses exactement dans ce que vous dites. Mais la première chose, c'est vrai que Marguerite Audoux, elle a eu ses fans aussi et ses groupies parce que elle a cristallisé un peu une sorte d'idéal de l'écrivain qui n'a pas besoin des livres des autres pour écrire. C'est l'idéal. C'est l'écriture presque biblique, primitive. On la compare. Il y a un journaliste du Monde dans les années 80 qui la compare au douanier Rousseau. Il y a un côté primitif, il y a un côté naïf, il y a un côté brut dans l'écriture de Marguerite qui va beaucoup séduire. Beaucoup, beaucoup séduire, forcément. Vous imaginez, c'est l'écrivain émancipé de ses modèles. Enfin, il n'y a rien de plus beau, de plus fantasmatique. Et elle, elle va le réaliser. Enfin bon, après, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail pour arriver à ça, bien sûr. Hein. Mais, et par ailleurs, pardon, vous parlez d'autre chose qui m'intéresse.
J'ai peut-être oublié moi-même.
Non, si, à la fin de votre citation.
Je ne sais plus. Mais voilà, encore une autre
ni
citation.
Ni renseigné. Oui, Francis Jourdain, donc c'est le grand ami, un autre grand ami de Marguerite Audoux, qui est devenu plus tard un célèbre designer. Alors c'est génial, Francis Jourdain, c'est quand même quelqu'un qui est connu parce qu'il a inventé un mobilier conçu pour les familles d'ouvriers, donc un mobilier pas cher, fait en série, avec un matériel pas trop cher, pas trop coûteux, pour donner accès au design et aux gens qui avaient peu de moyens. Et donc ça, c'est rigolo, c'est le grand ami de Marguerite Audoux. Et Francis Jourdain, il a écrit son autobiographie et il parle beaucoup de Marguerite Audoux dans son autobiographie. Il adorait Marguerite Audoux. D'ailleurs, lui-même était, alors qu'il venait plutôt de la haute, hein, milieu, son père était un grand architecte, etc. Il a épousé une ancienne couturière, ouais, lui-même. Ouais. Donc il était sensible aussi de par ça. Et il a très bien compris Marguerite Audoux. Hein.
Alors, elle devient un phénomène, vous dites, fini la discrète, excite l'inculte, elle écrit, et bien plus, elle en fait donc partie. De qui ? Eh bien, de la bande de ceux qui veulent faire péter la bibliothèque, crever les plafonds, bâtir des tours. La bande de ceux qui se prennent pour le bon Dieu, de ceux qui y croient, elle est donc leur égale, l'image d'épinal fantasmée d'ouvrière au grand cœur.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est... Il y a une image,
oui,
et elle reste...
Oui, et Francis Jourdain a contribué à cette image-là, cette ouvrière au grand cœur, cette femme simple qui ouvre toujours la porte, qui a peu d'argent, mais le peu qu'elle a, elle le donne facilement. Et c'est vrai qu'elle a aidé des gens dans la détresse, alors qu'elle-même avait peu de sous. Hein. Il faut savoir qu'elle est quand même morte en 1937, dans la presque précarité. Elle subvenait à ses besoins, parce qu'il y avait ses copains qui lui donnaient un peu de sous, elle a eu quelques rentes ici ou là, enfin, pas des rentes, mais des pensions. Mais ponctuelle. Donc elle a eu une vie difficile, hein. Elle ne mettait pas de côté, elle s'en fichait un petit peu. Et c'est vrai qu'elle correspondait à cette image d'Épinal. J'essayais d'expliquer pourquoi ils étaient aussi attirés par Marguerite Audoux. Il devait y avoir dans cette amitié aussi une part un peu de fantasme, hein, et de cristallisation. Alors c'est vrai que Marguerite Audoux, vous le disiez tout à l'heure, elle ne s'est jamais revendiquée comme une écrivain.
Ouais.
Elle dit « je ne suis pas une écrivain, je suis une écrivain couturière. Mmh. Elle a refusé de s'inscrire à la Société des gens de lettres. Le bulletin de la Légion d'honneur qu'on lui a envoyé, elle ne l'a jamais rempli. Elle répugne, elle n'aime pas trop les interviews, elle fuit la notoriété. Dès qu'il y a Marie-Claire fait un tabac et qu'il y a les journalistes qui se ruent chez elle, très vite, elle fuit, littéralement, elle prend le train, elle va sur l'île Dieu. Elle n'aime pas ça, elle n'aime pas le tapage médiatique autour d'elle et elle refuse de se définir comme une écrivain. Et on peut la comprendre, c'est une anti-écrivain. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une bourgeoise. Elle travaille à temps plein, elle est couturière, elle doit vivre. Parce qu'il faut savoir également qu'à l'âge d'être grand-mère, il y avait 3 petits-enfants chez elle. Parce que Yvonne, cette jeune nièce qu'elle a éduquée, elle s'est mise aussi à son tour à faire des enfants. Oui. Et elle n'a pas réussi à les élever. Elle se disputait beaucoup avec son mari, etc. Donc elle a fait 3 garçons et à chaque fois, elle les repassait à sa tante Marguerite Audoux qui du coup s'est retrouvée à devoir élever 3 enfants très jeunes. Alors qu'elle avait déjà la soixantaine. Donc voilà, c'était ça la vie de Marguerite Audoux. C'était devoir gagner sa vie pour nourrir ses 3 enfants.
Enfin. D'ailleurs, quand elle disait « Je suis si loin des gens de lettres, je suis une couturière écrivain. Mmh. » Et je trouve que c'est très juste, parce qu'il y a de la couture dans ses écrits. Par exemple, vous dites « L'ellipse, l'allusion, Marguerite au même moment en fera une esthétique, un style littéraire. » Elle est un peu la pionnière de l'écriture blanche, qu'on appelle l'écriture blanche. Et tout est dit et tout n'est pas dit en même temps. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de racolage non plus.
Pas du tout. Elle n'a jamais revendiqué quoi que ce soit et c'est pareil dans son style. Et c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure quand je vous ai lu le début de Marie-Claire.
Oui.
Elle ne dit pas que sa mère est morte, elle dit que sa mère dort. Elle dit pas, un peu plus loin, son père l'emmène dans un endroit où les hommes buvaient du vin. Elle dit pas une taverne, elle dit pas une auberge. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire dans Marie-Claire, elle parle des choses comme elle les reçoit. Donc qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une sorte de maison où il y a des hommes qui boivent du vin. Et c'est tout est comme ça. Et donc c'est ça le fameux point de vue enfantin là de Marie-Claire. Et du coup, ça fait que en effet, c'est pas du tout racoleur. Elle ne nomme pas les choses.
Non, elle les suggère.
Elle les suggère, et c'est ce que j'appelle aussi un art de l'euphémisme. Au lieu de dire les choses directement, elle dit les choses comme elle les a, elle, ressenties enfant. Et du coup, ça fait que Marie-Claire, c'est un récit à la fois très dur, parce que finalement, ça raconte une histoire dure. Elle perd sa mère, elle a 3 ans. À 5 ans, elle se fait abandonner par son père. L'orphelinat des religieuses, c'est pas facile. Après, elle est bergère. Après, elle a une histoire d'amour qui finit très mal. Donc, c'est un récit dur, Marie-Claire. C'est un témoignage réaliste d'une vie, d'un parcours d'enfant dur. On pense en effet à Charles Dickens, etc. Et pourtant, quand on lit Marie-Claire, on n'est pas du tout abattu comme on l'est quand on lit du Zola. C'est pas du tout douloureux ou violent ou brutal, parce que c'est dit avec cette langue euphémistique, un peu, elle manipule l'art de la litote, tout est atténué par ce point de vue d'un enfant. Parce qu'un enfant, il ne va pas dire « ma mère est morte » s'il ne sait pas ce que c'est que la mort, il va dire « ma mère, elle dort ». Et donc tout est comme ça dans Marie-Claire, ce qui fait que c'est un récit finalement dont la lecture est assez douce. Paradoxalement,
vous dites que ça pourrait être un récit inclusif. Vous parlez d'un récit court et simple, plein et lisse comme la sphère d'une bille. Un enfant pourrait le serrer dans sa main. Mais il y a quand même, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a quand même une polémique. Très vite, on doute. Ça, c'est quand même, faut quand même qu'on en parle,
oui.
Géraldine
oui.
Trio.
Oui.
Très vite, c'est Charles-Louis Philippe qui est soupçonné d'être le véritable auteur, dites-vous. Et votre frère n'a pas écrit une ligne, ceci va lui rien pour la bonne raison du reste qu'il n'en était pas plus capable que Mirmo et que moi-même. Donc
oui.
Ça c'est Gide, je crois, qui écrit,
amis ont pris sa défense, en effet. Quand
mais
Marie
très vite, doute que ça soit,
que
c'est
ce
terrible.
Soit
voilà.
On peut pas croire qu'une vulgaire couturière puisse écrire un livre dont on dira aussi qu'il est très élégant, très beau, et on peut pas croire que ce soit une ouvrière qui ait écrit ça. D'ailleurs, ce qui est... Et donc, il va y avoir une rumeur, on va dire que c'est Bernard Giraud. C'est Bernard Giraud.
Pourquoi pas
c'est... Oui, pourquoi pas. Que c'est Giraudoux, donc le dramaturge, oui. Qui l'aurait écrit, puisqu'il avait écrit lui-même quelque chose sur elle, et que Giraudoux, comme Marguerite Audoux.
Voilà.
On va dire aussi que c'est Charles-Louis-Philippe. Alors, Charles-Louis-Philippe, donc ce grand ami de Marguerite Audoux, qui était lui-même écrivain, un écrivain réaliste, qui a écrit Bubu de Montparnasse, mais qui est mort. Donc, c'est facile, on dit, c'est pratique. Il est mort, donc il peut pas défendre
il peut
son
pas
ami.
Défendre, oui.
Et on dira que c'est lui, et que même c'était son amante, etc. Or, quand vous lisez Bubu de Montparnasse, vous voyez pas trop le rapport avec Marie-Claire, hein, ces deux écritures assez différentes.
Alors, ce que vous montrez aussi, c'est il y a la gloire, la célébrité. Après, elle s'évade, elle va à l'Île-Dieu. Après, elle aime bien aussi le Sud, à Saint-Raphaël, où elle termine ses jours. Mmh. Et puis, il y a les interviews. Et je crois que c'est en 1927, il y a une jeune journaliste qui vient l'interviewer. Elle a 64 ans, Marguerite Audoux, c'est un. Alors, elle tergiverse un peu. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, hein, cette interview. Elle dit « Je peux en revanche vous parler des gens que je connais, des femmes que je croise dans les ateliers. » Je ne parle pas des grands ateliers, des maisons à la mode, je parle des petits ateliers, celui des petites mains, des couseuses, des ouvrières. Donc elle a le sens de l'échelle, elle sait d'où elle vient. Mmh. Puis il y a cette description aussi que vous faites, la photo qu'on voit peut-être en couverture, on la photographie et elle est gênée, Marguerite Audoux, c'est pas forcément son truc.
Mmh.
Sur cette photo en médaillon, elle est déjà une femme replète, la forte poitrine bombe le torse et stigmatise les lignes du corps en bloc monolithique. Cheveux légèrement gaufrés, rassemblés en deux boules macarons des deux côtés de la tête. Les traits du visage sont beaux, fins, les sourcils arqués, les yeux longs. Elle est belle, mais un peu passée. Rondeur du buste, épaisseur du cou, il y a quelque chose d'installé, de mémère, de fini. Ça manque de sauvagerie et de jeunesse. Un peu cucu aussi, la faute aux macarons. Donc, et vous dites sur cette autre photo, elle fait l'écrivaine, mais c'est un peu compassé, on y croit à moitié. Les yeux mi-clos, penchés sur une page, une plume à la main, l'autre main attend là, posée sur la table, un chien fidèle qui attend que ça passe. Donc on voit aussi la fin, c'est ça aussi qui est émouvant.
Mm-hmm.
C'est toute une vie avec la fin de son écriture et
oui.
Vous montrez l'obscurité, la lumière et après le retour progressivement à l'obscurité.
Oui,
c'est, il y a
oui.
trois temps dans votre livre.
Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que finalement, après Marie-Claire, Octave Mirbeau va lui dire, allez vite, écris la suite, profite de ton succès pour continuer. Voilà, et finalement, elle va mettre 10 ans à écrire la suite, hein, qui est l'atelier de Marie-Claire. Après, il y en aura un autre 5 ans plus tard, quelques nouvelles, et un dernier roman qu'elle va écrire les dernières années de sa vie, et qu'elle va quasiment écrire sur son lit d'hôpital à Saint-Raphaël, alors qu'elle est, elle agonise. Elle n'était pas pressée. Elle voulait écrire quand ça lui chantait. Et elle n'a jamais voulu profiter de son succès. Ce n'est pas une transfuge de classe, Marguerite Audoux. Elle n'a pas jamais voulu changer de milieu. Elle n'a pas voulu changer de mode de vie. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a reçu toujours beaucoup de monde chez elle. Alors, des gens moins prestigieux qu'au début, bien sûr. Hein, avec les années, on l'a un peu oublié. Mais y a beaucoup de témoignages. Il y a pas mal de témoignages de l'époque de gens, beaucoup de, bon, il y a des communistes, il y a un, qui disaient qu'ils aimaient bien aller chez elle parce que elle prodiguait des conseils sur la vie pratique. À un moment, il y a quelqu'un qui vient qui lui parle de sa petite fille qui est malade, donc elle lui donne un remède simple, hein, du miel, du citron, je sais plus lequel exactement, mais voilà. Donc c'était, elle avait le sens de la vie pratique, hein, oui. Marguerite Audoux.
Alors vous écrivez avec cette voix enfantine, cette manière de mettre du beurre sur la tartine rugueuse du réel pour en dégager un peu de douceur, cette douceur dont elle a failli mourir de la douleur d'en avoir tant manqué, ce tissu fluide et caressant dont elle a su napper les couteaux de ses souvenirs comme on mettrait de l'eau pour soulager une peau blessée. Alors comment vous avez, quelle était la contrainte de ce livre, Géraldine Doutriot? Pas facile. Vous avez essayé de doser parce qu'il y a à la fois votre regard sur Marguerite Audoux. Il y a les pas de côté, un peu à la manière d'une photographe, finalement. Vous prenez des...
Oui,
il y a des zooms, il y a
oui,
des...
Oui, oui, des instants, des flashs.
Quel a été un peu le... Est-ce qu'il y a eu des contraintes d'écriture? Vous avez... Comment vous avez écrit votre récit?
Je l'ai beaucoup réécrit. Au début, j'étais partie sur toute autre chose, presque un roman qui mettait en scène quelqu'un qui faisait une enquête sur Marguerite Audoux, donc rien à voir.
Oui.
Et après, je suis revenue à une phase plus classique, un récit biographique. Mais j'ai pas voulu faire ce qui avait déjà été fait avant moi par Bernard Margaro, qui a écrit une vraie biographie très longue dans les années 90. Donc, moi, je voulais faire quelque chose d'un peu plus entre guillemets littéraire, même si elle est très bien écrite, mais sa biographie à lui. Donc, plus par flash, c'est un peu le style des biographies modernes en ce moment. Hein. C'est un peu, c'est à la fois, il y a un parcours chronologique, il y a des informations, c'est un texte documentaire, et en même temps, oui, il y a des petits moments où je parle un petit peu de moi, où je fais un petit parallèle.
Ça alterne, je veux
oui,
dire
ça
par
alterne.
Là.
Oui, oui.
Il y a aussi, on sent à un moment donné, vous dites que vous voulez trouver le bon éclairage.
Oui, c'est pas facile, ouais. Surtout qu'on sait peu de choses sur elle. C'était une femme assez discrète qui se confiait peu.
Il y a des inédits de Marguerite Audoux? Des textes,
non.
Encore, des correspondances
Alors, tout a été, une bonne partie de sa correspondance a été mise en ligne par le CNRS.
Oui.
Mais non, il n'y a pas d'inédit. A priori, tout a été publié et réédité. Alors, bon, il y a des choses qu'on trouve difficilement. Il faut aller chez les bouquinistes, etc. Mais je voulais vous dire autre chose.
Non, et son écriture, comment se présentait-elle?
Oui, en fait, ce que vous parliez de blessure, en fait, il faut savoir que Marguerite Audoux, comme beaucoup d'écrivains, elle a un leitmotiv dans son œuvre, et je trouve ça important de le dire. Le leitmotiv de Marguerite Audoux, c'est une blessure, hein, c'est la blessure de l'abandon. Et c'est aussi pour ça que ses textes sont très émouvants, parce que ça revient souvent, c'est l'abandon. C'est une femme qui a été abandonnée par son père, et puis qui a été abandonnée à l'âge de 16 ans par un homme qu'elle aimait. Et c'est ce dont elle parle dans Marie-Claire. Et il y a ça dans tous ses romans, ça raconte toujours une héroïne qui a été heureuse, qui a eu une enfance heureuse, qui a eu un amour heureux. C'est souvent lié à la nature aussi. Donc, nature, enfance, poésie, amour. Et, violemment, ça s'arrête. Et elle est chassée, elle est expulsée de l'Éden, du paradis. Et il y a vraiment ça dans Marguerite Audoux. En fait, toutes les héroïnes des textes de Marguerite Audoux sont des héroïnes un peu mélancoliques, un peu rêveuses, qui regardent beaucoup par la fenêtre, qui sont toujours dans les hauteurs. Hein, D'ailleurs, elle-même était toujours au 6e étage et elle a toujours, toujours voulu vivre en hauteur pour avoir vu sur le ciel, sans vis-à-vis. Et je pense qu'elle regardait beaucoup les nuages. Enfin, il y a tout un truc autour des nuages, hein, notamment... Et je pense que vraiment, ça, c'est, on peut pas parler de Marguerite Audoux sans parler de cette blessure originelle oui. qui revient dans tous ses textes. C'est des héroïnes qui regardent, qui sont assez passives, assez contemplatives et qui sont un petit peu
en dehors
figées.
De leur vie.
Ouais, qui sont un petit peu ailleurs parce que elles sont un peu, j'ai envie de dire, encore bouleversées, encore un peu sidérées par cette rupture du monde originel, primitif, heureux qu'elles ont connu. Parce que Marguerite Audoux a eu un grand amour.
Oui.
Elle a eu un grand amour à l'âge de 16 ans avec le frère des propriétaires fermiers qui l'employaient. Et c'est un amour qui a duré 2 ans et qui s'est mal terminé et ça a été très violent. Et on le sent, elle en parle, ça filtre dans ses interviews, etc. Et voilà, donc bon. Voilà.
Mais,
je voulais en parler parce que c'est voilà. important quand même.
Quel est le livre que vous... Il y a des jeunes auditeurs, ils vont vous lire, hein, des auditeurs, j'espère. Quel est le livre que vous conseilleriez, dont vous conseilleriez la lecture? Parce que son livre préféré, je crois, c'est pas du tout Marie-Claire. Ou la
oui, c'est De la ville au moulin, qui est pourtant pas le mieux. Bah, c'est clairement Marie-Claire. Et j'insiste, en fait, je pense que les jeunes aimeront peut-être plus l'atelier de Marie-Claire, parce que c'est très vivant, il y a beaucoup de dialogues, il y a plein d'histoires de destinées féminines. Et quelqu'un d'un peu plus mûr adorera Marie-Claire.
Est-ce que des admirateurs, des lecteurs de Marguerite Audoux qui vous ont écrit après ce livre?
Pas écrit, mais j'ai fait plusieurs conférences. J'en ai fait une récemment à Saint-Raphaël, où elle est enterrée. Et puis en Sologne, bien sûr, hein, puisqu'il y a un musée Marguerite Audoux à Sainte-Montaine. Allez le visiter. Ça, c'est une super idée d'excursion le week-end. C'est à 2 heures de Paris. Vous prenez la voiture ou le train, vous arrêtez à Aubigny-sur-Nère, vous allez visiter Aubigny. Et à 5 minutes en voiture, il y a des petits bus, j'en suis sûre, qui passent par là, vous allez au musée Marguerite Audoux, qui est un musée, c'est une pépite ce musée. Ouais. Il est super bien tenu, il y a plein d'informations, il est très actif, très dynamique. Et donc là, oui, j'ai fait des conférences et j'ai rencontré des gens qui aimaient... Bah, les gens du coin connaissent un peu Marguerite Audoux quand même. Il faut savoir que le texte de Marie-Claire était le support souvent des dictées... Enfin, souvent, ça a été le support pour des dictées. Des dictées qu'on donnait pour avoir le certificat d'études. Donc, en fait, c'est un texte qui a été pas mal étudié dans les années 1950, 1960. Et puis, on ne sait pas pourquoi... Paf, elle est tombée dans les oubliettes et elle fait clairement partie des femmes invisibilisées, injustement invisibilisées d'histoire littéraire.
Ah oui, tout à fait. Voilà comment, je crois, elle parle de la Sologne. Quant à la nuit tombante, la voiture nous ramena à la ferme. J'ai éprouvé un vrai soulagement à me retrouver dans le silence et l'odeur des prés. Très simple. Hein, c'est une. Il y a aussi Anna de Noailles, je crois, qui a adoré le manuscrit. Je crois qu'elle avait lu le texte sur manuscrit, d'ailleurs, et qu'il l'a beaucoup aimé. Est-ce que ce livre vous a changé, métamorphosé? Est-ce que vous sentez qu'il y a un avant et après Marguerite Audoux?
Il y a un avant, un après, parce que après, ça m'a propulsé dans l'aventure de l'écriture pour arriver à ce texte. Mais oui, donc il y a un avant, un après, ça je peux le dire. Et puis. Aussi, en tant que lectrice, Marie-Claire, c'est une autre manière d'écrire. Vous parliez d'écriture blanche, mais avec ce quelque chose d'un peu poétique, peut-être un peu qui nous paraît à nous suranné, et qui est pourtant très beau, un peu tendre, très doux. Il y a vraiment une douceur dans Marie-Claire, parce que l'écriture blanche, aujourd'hui, parfois, c'est un peu pour des textes très sobres, un peu tristes, un peu glauques. Là, pas du tout. C'est pas... pourtant, malgré la dureté de ce qu'elle raconte, il y a toujours cette douceur, cette empathie et ces personnages qu'on a envie d'aimer, tous ces personnages secondaires. Elle a vraiment le don des personnages. Elle fait vivre ces personnages secondaires. Et ça, c'est rare chez un écrivain. Il n'y a pas qu'une héroïne. Il y a tous ces ribambelles de personnages secondaires.
Alors voilà la phrase d'Anna de Noailles, je la cherchais un peu. « Je vous retourne cet étonnant manuscrit si beau de simple vérité et qui semble avoir été pris au cœur de l'auteur comme les feuilles sont arrachées à l'arbre par le vent. » Anna de Noailles.
Ouais.
Donc c'est vrai que son livre, en tous les cas, nous parle encore et voilà, je remercie beaucoup pour ce parcours d'écriture.
Merci à vous de m'avoir invité.
Parcours de vie qui, je pense, fera réfléchir aussi ceux qui vous liront, ceux qui vous découvriront.
C'est un parcours qui donne de l'espoir.
Oui, tout
ça,
à
c'est
fait.
Sûr.
Et votre premier, donc c'est votre deuxième livre, hein, oui. Et votre premier livre, c'était Chercheur de diamants. Ben, je pense que là, vous avez trouvé un joyau.
Oui, c'est vrai.
C'est une perle rare, oui. Marguerite Audoux.
Oui, c'est une perle rare.
Et ouais. Surtout, c'est quelqu'un qui ne cherchait pas, c'est pas du tout le tout à l'ego, là. On est très loin de... Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est une femme qui a écrit, qui aimait le geste, sans doute. Vous avez une... Il y a des manuscrits qui restent, on voit son écriture, sur quoi elle écrivait, sur des...
Bah, sur un cahier d'écolier de dessous,
ouais. Ah ben voilà.
Ouais. Oui, ça, elle n'avait pas besoin de beaucoup de matériel pour écrire, ouais, ça c'est sûr.
Merci à vous Géraldine Doutrio pour Le cas Marguerite Doux, ça vient de paraître aux éditions des Femmes, Antoinette Fouque. Je crois qu'on peut vous retrouver... Au marché de la poésie.
Oui, alors. Au marché de la poésie, le vendredi 5 juin prochain, entre 18 et 20 heures, sur le stand de l'éditeur des Femmes Antoinette Fouque, oui. Je ferai une signature.
Eh ben voilà, comme ça, nos auditeurs pourront et nos auditrices venir discuter avec vous. Merci à Flo Descailloux qui nous a accompagnés et à qui je laisse le dernier mot pour conclure l'émission.
Yvonne Printemps, au clair de lune. On a parlé d'enfance, de nature et de poésie.
Gotcha! Gotcha! Je suis dans cet atelier, mais il faut que je décroche. Les anges font des cauchemars au fond du paradis. Les sergents recruteurs me demandent au parloir, avec des mégaphones pour compter les élus. Les sergents recruteurs me